Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.
Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à toutes et à tous pour le débrief de Radio VFM et Foot Normand, 22e épisode aujourd'hui, épisode entièrement consacré à la Coupe Gambardella, épisode que je vais avoir le plaisir, l'honneur de vous présenter aux côtés de mon coéquipier de Foot Normand, Mathieu Billot. Mathieu Billot, salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
La Coupe Gambardella, on va en parler en long, en large et en travers avec notre invité dans un instant, ce 22e épisode du débrief. Il débute maintenant.
Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le foot normand.
Après une petite semaine de pause du débrief, trêve internationale oblige, le débrief est donc de retour aujourd'hui. Et pour cet épisode 22, eh bien on vous a concocté un numéro spécial depuis le stade Michel Dornano où on se trouve en ce moment. On va parler de la demi-finale de la Coupe Gambardella. Elle aura lieu dimanche prochain, dimanche 10 avril. Notez bien, coup d'envoi à 15h au stade Michel Dornano. Cette demi-finale qui opposera donc le stade Malherbe de Caen au stade Rennais. Et pour parler de cette demi-finale, eh bien qui de mieux que Nicolas Seub, le directeur du centre de formation du Stade Malherbe, l'entraîneur de cette équipe des U18 qui foulera donc la pelouse dimanche après-midi. Pour rappel, cette compétition concerne les garçons nés en 2004, 2005, 2006 pour les plus précoces d'entre eux. On dit pas de bêtises, notre invité, on l'accueille maintenant, Nicolas Seub. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Merci infiniment d'être l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Nicolas, qu'est-ce qu'elle représente, cette demi-finale de la Coupe Gambardella? On rappelle que c'est historique parce que c'est une première depuis 20 ans au Stade Malherbe. La dernière demi-finale, elle remonte à 2001. À l'époque, d'ailleurs, ça se déroulait sur terrain neutre. Celle-ci, vous aurez quand même l'avantage et le plaisir de la jouer ici à Dornano.
Mais qu'est-ce que ça évoque déjà? C'est que c'est une compétition très prestigieuse. C'est la Coupe de France des jeunes. Si on est là aujourd'hui, c'est que ça fait parler. Sinon, on ne serait pas... au stade d'Ornano en train d'évoquer le parcours de la Coupe Gambardella. Après, l'autre donnée, c'est l'avantage pour une fois. Enfin, est-ce que c'est un avantage? J'en sais rien encore quand je le dis, mais c'est le privilège, je veux dire, de recevoir au stade Michel Dornano, d'une part pour les jeunes joueurs qui vont participer à cette compétition, et puis d'autre part pour l'ensemble du club et des proches qui vont enfin pouvoir voir leurs enfants évoluer à domicile, qui est toujours entre guillemets un avantage, parce que la complexité qu'on a eue depuis le départ, c'est s'être déplacé à chaque fois.
Et forcément, cette première à domicile, elle était attendue. Et quoi de mieux que le stade Dornano pour être le théâtre de cette demi-finale? Mathieu Billot, Foot Normand.
Ouais, on va justement en profiter pour rappeler rapidement le parcours donc jusqu'à présent qui s'est déroulé 100% à l'extérieur. Ça avait commencé par un premier tour assez corsé au Paris FC avec une victoire 2-1. Ça en est suivi un affrontement régional contre le FC Rouen. Un
match
qui n'avait pas été évident, 32e. Oui. Une victoire 3-1, c'est ça?
C'est ça.
Déplacement en région parisienne, de nouveau en 16e de finale, Argenteuil, victoire 2-0. Le match à Brest en 8e de finale, un succès 3-0. Et donc au tour précédent, en quart de finale, contre Lyon-la-Duchère, loin d'être évident aussi. Donc que des matchs à l'extérieur, on rappelle une nouvelle fois. Est-ce que dans ce parcours-là, il y a un match qui a été un petit peu plus marquant que les autres, un petit peu plus référence, avant le quart de finale à Lyon-la-Duchère, quand on faisait les sujets avec vos jeunes joueurs, beaucoup citaient le Paris FC. Peut-être par la nature de l'adversaire, aussi le scénario où vous étiez mené, hein, si je ne me trompe pas.
Bah, c'est vrai que c'est le match référence, puisqu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre dans cette compétition-là. On l'avait plus joué depuis très longtemps, en fait, de par le Covid. Et la complexité de ce déplacement, c'est qu'il est placé juste avant les vacances de Noël, donc on ne sait jamais trop à quoi s'attendre et dans quel état physique vont se retrouver les joueurs. Et c'est un match référence parce que les joueurs ont rendu une copie extraordinaire dans l'engagement, dans la volonté de courir ensemble, sur la maîtrise technique du match et face à un adversaire très qualitatif, puisque le PFC est aujourd'hui un club armé, qui n'était pas le cas il y a quelques années, avec une structure, un vrai centre de formation maintenant, une équipe première qui est en haut du classement, donc la possibilité de conserver leurs meilleurs joueurs, et un classement dans les championnats nationaux 17 ou 19, qui me semble à l'époque qui devait être dans les trois premiers pour les deux catégories, donc forcément un adversaire de taille, et c'est pour ça qu'il reste un match référence. Le deuxième match qu'on peut mettre un petit peu à part, c'est celui à Brest, puisque c'est une structure professionnelle et aussi dans les conditions de jeu qu'on va peut-être connaître dimanche, c'est-à-dire dans un stade de Ligue 1.
Parce qu'à Brest, vous jouiez au stade Francis Leblé.
Tout à fait.
Qui accueille cette saison tous les dimanches des affiches de Ligue 1, et il y avait un petit peu de monde, notamment un COP brestois assez fourni,
oui.
Même si le scénario du match a fait que...
On les a pas trop entendus.
Voilà, ils ont pas été aussi bruyants qu'on aurait pu, avec un but au bout d'une demi-heure et un but juste après le retour des vestiaires, forcément ça favorise pas les éclats de voix adverses.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, vous y avez fait référence, Nicolas, donc ce qui donne un petit peu un piment, peut-être même un gros piment supplémentaire à cette affiche de demi-finale, c'est qu'elle aura lieu à Dornano.
Oui.
Voilà, le club a décidé de mettre un petit peu les petits plats dans les grands. Bon, ça rajoute encore une connotation supplémentaire forcément à ce match-là.
Bah, c'est certain que pour les jeunes joueurs de notre club, avoir le privilège de jouer au Stade Ornano, c'est extraordinaire. Donc je remercie bien sûr mes dirigeants pour ça, parce que normalement ce stade est uniquement accessible quand nous sommes en équipe professionnelle. Et c'est un vrai honneur de pouvoir fouler cette pelouse. On les embête assez dans leur parcours de formation pour leur dire « Notre objectif, c'est que vous puissiez traverser la route. » La proximité de l'unité de lieu d'entraînement fait que ce stade est à proximité du centre d'entraînement. Et d'avoir ça en objectif, ça donne toujours quelque chose de très particulier pour nos jeunes joueurs. Et là, cette fois-ci, ils vont pouvoir fouler cette pelouse. Alors, j'en parle en connaissance de cause, attention à la gestion des émotions, puisqu'il n'est jamais simple de pouvoir faire face à nos proches et au soutien du public. C'est vraiment de l'apprentissage, donc on va gagner du temps sur l'avenir, mais l'événement va être très particulier à gérer.
Ça change quelque chose justement, Nicolas? Forcément, on joue pas sur la pelouse de Dornano comme oui. On joue sur l'annexe de Venois. Vous allez vous préparer à ça? Vous allez préparer vos joueurs à ça? Est-ce que vous allez vous entraîner par exemple comme le font certaines équipes des fois sur la pelouse la veille du match?
Normalement c'est prévu, il y a encore une organisation et un fonctionnement à déterminer, mais il est prévu qu'on puisse s'entraîner la veille du match sur la pelouse de Dornano, tout simplement pour se rendre compte du contexte de l'espace de jeu qui est extrêmement grand comparé à d'autres terrains. Les joueurs, quand ils vont être sur le terrain, ils vont se rendre compte de la largeur, de la profondeur de ce terrain-là, et aussi pour qu'ils s'accaparent un petit peu le climat qui va pouvoir transpirer le lendemain. Après, la chance qu'ils ont, c'est que j'ai un peu d'expérience dans ce stade, donc j'espère avoir de l'influence positive dans l'approche de ce match, puisque c'est une pelouse que j'ai pu fouler
maintes
reprises. Donc du coup, voilà, aborder ce match, certes, dans la préparation, ça va être assez simpliste dans la motivation, puisque... c'est une demi-finale de Gambardella. Maintenant, la gestion des émotions, elle est très individuelle. Et donc, même si on donne des conseils, on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer. Donc, c'est le joueur qui va lui-même être capable d'appréhender la pression du mieux possible, je l'espère.
Est-ce qu'appréhender la surface, ça peut à minima effectivement se préparer avec une séance la veille, mais ce que vous ne pourrez pas appréhender, c'est l'effervescence du public, oui. C'est l'ambiance dans le stade le jour J. On attend pas mal de monde, évidemment. On sait que les abonnés, les partenaires ont été invités. Ça représente déjà à peu près 6000 personnes. Pour les autres supporters, je crois que les places sont en vente à 5€, hein, Mathieu, c'est
ça? À la boutique du club, tout à fait. Ouais.
Dès maintenant, on sait aussi que les licenciés du district, les clubs de la région sont associés à cet événement. On peut peut-être attendre autour de 10 000 supporters, ce qui est quand même assez incroyable pour demi-finale de Gambardella. Là aussi, ça fait partie d'un contexte très spécial à appréhender pour les joueurs.
Mais en fait, la particularité, c'était de faire de cet événement quelque chose de grandiose et récompenser surtout. On a assez parlé comme ça de régionalisation à l'intérieur de notre structure. Donc l'idée, c'était vraiment de récompenser tous nos clubs, tous nos partenaires, pour bien faire comprendre que l'idée de notre projet, c'est bien sûr réunir la région. Et là, on avait l'occasion de pouvoir faire des actes plus que des paroles. Et aujourd'hui, c'est un acte fort, je trouve, de pouvoir inviter tout le monde. Et l'idée, c'était de remplir ce stade. Donc moi, je souhaite qu'il y ait le maximum de personnes ce jour-là. On appréhendra, j'espère, au mieux cette compétition, mais en tout cas, c'est d'avoir le maximum de gens qui puissent soutenir nos jeunes joueurs.
Ça peut transcender, ça peut aussi intimider parfois.
Il y a les deux versants. Ouais. Il y a forcément l'intimidation, puisque on est sous les feux de la rampe et sous les regards de tout le monde, et on peut être impressionné et du coup être un peu tétanisé. Mais ça peut aussi transcender, puisque le soutien, le bruit fait que de toute façon nous sommes tous des humains et quand on nous soutient et quand on crie derrière nous pour avoir des choses positives, il se passe forcément des choses. On peut le mettre de manière générale sur l'éducatif. Quand il y a des gens qui nous soutiennent, en général, se passent des choses positives. Quand il y a des gens qui nous cassent en deux, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'espère que ça sera une arme.
Vous êtes au cœur du 22e épisode du débrief de Radio VFM et Foot Normand, épisode entièrement consacré à la Gambardella, cette demi-finale qui, dans quelques jours, ici même au stade Michel Dornano, opposera les jeunes du stade Malherbe de Caen à ceux du stade Rennais. Mathieu Billot, Foot Normand.
Cette demi-finale, elle sera aussi un petit peu particulière dans la préparation, car vous serez absent physiquement, on
oui.
va dire. Bon,
oui.
Pour la bonne cause, hein, on précise. Hein, quand même, hein, c'est, vous n'avez pas une semaine de vacances, hein,
non, on ne se promène pas.
Bien au contraire, vous serez à Clairefontaine oui. pour valider votre diplôme de formateur.
Tout à fait.
Donc c'est le diplôme qui permet de diriger un centre de formation.
C'est bien ça.
Voilà. Donc comme ça, après, vous serez tranquille. Mais forcément, le timing n'est pas forcément adéquat. Bon, c'était déjà le cas avant le quart de finale. Hein.
Oui.
Donc c'est une situation que vous connaissez. Mais comment ça va se préparer du coup cette à distance et on s'appuie encore plus sur son staff, tous les jours c'est le téléphone, le soir comment ça se passe un petit peu concrètement?
Déjà c'est un travail au quotidien, je veux dire c'est certes là il y a la Gambardella en fin de semaine mais c'est un travail quotidien, le travail en staff il n'est pas cloîtré à j'ai une catégorie et j'entraîne cette catégorie, c'est un travail d'un staff technique de centre de formation et pour les dernières semaines en fait tout le staff travaille autour de la Gambardella et donc du coup tous les éducateurs U17, U19 sont ensemble pour préparer au mieux cette rencontre, donc ça veut dire qu'on réunit les staffs pour cette compétition. Donc à distance moi je vais donner juste le canevas de la semaine avant de partir et puis une fois parti de toute façon je suis pas du tout inquiet sur le travail qui va être effectué dans la semaine, on va pas changer nos habitudes et l'objectif étant qu'on continue à développer et à faire progresser nos jeunes joueurs et on aura le temps de parler du week-end la veille de match pour la confrontation, la semaine elle va rester très traditionnelle.
D'accord, donc on va les citer un petit peu tous, hein. Il y a Romain Leroux
oui.
donc, qui est votre adjoint
oui.
Voilà. Il y a aussi Julien Lecoq qui est le préparateur oui. athlétique,
tout à fait.
Yann Chevalier qui est l'entraîneur des gardiens
oui.
pour les semaines de Gambardella, il y a Mathieu Ballon qui oui. est le responsable de la catégorie U17
oui.
qui rejoint le staff, hein.
Oui.
Il faut savoir que la particularité de la Gambardella c'est que c'est pas seulement une catégorie. Voilà. Alors il y a des garçons qui jouent des fois en réserve, il y a des garçons qui jouent en U19 et vous avez des garçons qui jouent aussi en U17 hein.
Oui.
Ce week-end il y en avait d'ailleurs quelques-uns
oui.
Qui ont l'emporté contre le Havre d'ailleurs.
Tout à fait. Félicitations à
voilà. Là, Léo Milliner, ça, il y a Noah Lapis-Pouchard,
oui.
il y a Servé Da Silva
oui.
voilà. Donc c'est des garçons qui sont dans le groupe élargi
tout à
dans
fait.
Bardella. Donc c'est vrai que c'est tout un club et on va dire tout le centre, ce qui est aussi bien sûr le personnel administratif et de la vie au centre, c'est vraiment tout un club hein, qui est derrière un petit peu cette aventure.
Mais c'est tout un club, c'est tout le centre de formation. Je leur répète avant chaque match de Gambardella, c'est la compétition qui représente le centre de formation. Donc c'est toujours un honneur et un privilège de faire partie de cette équipe-là. L'idée c'était de réunir le maximum de joueurs et à plusieurs reprises j'ai convoqué 18 joueurs parce qu'il me semble important que tout le monde s'imprègne de ce qui peut se passer ce jour-là. C'est gagner du temps aussi sur les années suivantes, c'est-à-dire que les prochains à venir, ils n'auront peut-être pas joué cette année-là, mais en tout cas ils auront déjà connu une aventure, ils auront déjà vu, donc c'est gagner du temps sur la suite. Ensuite c'est bien sûr élargir le staff, on a le privilège de pouvoir élargir le staff sur cette compétition-là. Il faut savoir que habituellement nos staffs 17-19 sont plutôt réduits sur les matchs de championnat, mais là c'est un staff élargi, donc j'ai la chance d'avoir un adjoint, j'ai la chance d'avoir un entraîneur des gardiens, un préparateur physique, Marion qui est responsable socio-éducative aussi, plus de dirigeants, enfin c'est un staff de 7 personnes qui pour nous est une chance puisque tout est cadré, disons que moi j'ai juste à m'occuper du match, donc c'est beaucoup plus simpliste dans la préparation et c'est une chance aussi pour les joueurs puisqu'ils ont tout. Alors, comment expliquer ? Ils ont tout pour bien réussir. Je trouve que les choses sont bien cadrées et les résultats qu'on a réussi à obtenir, c'est aussi grâce à ça, à cette organisation, à ce fonctionnement qu'on a mis en place.
Voilà. C'est mieux en appuyant sur le. Sur le je vois tellement du kiné en écoutant Nico que j'en avais.
C'est gentil.
J'en avais éteint mon micro. Nicolas, évidemment, depuis le début de la compétition, vous avez parfois, souvent même, été présenté comme le favori de la confrontation. Là, le contexte sera aussi différent parce que c'est un vrai gros calibre que vous allez affronter, le Stade Rennais, qui est peut-être pour le coup le favori.
Oh ben c'est une certitude. Après, on va pas se dédouaner de l'avantage de recevoir, mais le Stade Rennais, historiquement, a un centre de formation qui est aujourd'hui supérieur au nôtre. On n'a qu'à voir les joueurs qui sont issus de leur centre de formation qui réussissent dans les championnats européens. Voilà, c'est pas un secret de polichinelle. Maintenant, il y a des moyens financiers qui sont colossaux comparés au nôtre. Pour autant, on travaille aussi et on arrive à sortir des joueurs, encore une fois. Constatons le nombre de joueurs qui jouent en équipe première chez nous qui sont issus du centre de formation. Donc oui, on ne va pas être favori. Oui, on l'a été au moins à 3 reprises. Mais je préfère me retrouver dans la peau de l'outsider. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple de présenter les rencontres et d'appréhender la compétition. Il n'empêche que c'est pas garanti d'une victoire d'être outsider, mais en tout cas les joueurs le savent, voilà, il n'y a aucune surprise, il y a de top joueurs à Rennes qui jouent déjà en Ligue 1 pour certains, donc c'est juste normal, mais on va vendre chèrement notre peau pour autant, hein. C'est pas parce que c'est des top joueurs qu'on va les laisser être des top joueurs. Voilà.
Dans la préparation du match, dans la présentation du match, comme vous dites, c'est sûr que c'est un levier, on va dire, un levier un peu plus facile à actionner, de dire on va aller en face ses favoris, mais on va aller les taper. Et je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont réceptifs à ce genre de discours-là.
Non, mais de toute façon, à partir du moment où on rentre sur le terrain, c'est pour gagner les matchs. Mais le versant motivationnel, il est assez simpliste quand c'est une demi-finale de Gambardella. On n'a même pas besoin d'appuyer sur ce levier-là. Ouais. Il est automatique. C'est toujours plus difficile quand on va jouer un match
bien plus anonyme, on va dire.
Bien plus anonyme, pour être gentil. Et c'est toujours plus difficile d'appuyer sur les leviers. Là, celui-là, celui qui n'est pas motivé pour ce match-là, il faut qu'il change de métier. Ouais. C'est une certitude.
Nicolas, comment est-ce qu'on travaille sur l'adversaire, en fait, sur un match comme celui-ci? Vous évoquiez votre staff tout à l'heure. Évidemment, il y a un partage des responsabilités, oui, des missions de chacun. Oui. Ça se rapproche de ce qu'on peut retrouver en pro. On fait de la vidéo, on s'intéresse au dernier match de l'adversaire, même si on sait que c'est particulier parce que cette génération, on ne la retrouve pas dans une compétition nationale.
En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a peu d'images, tout simplement parce qu'il y a eu peu de matchs, en tout cas sur les joueurs qui vont être confrontés, et que ce soit pour nous ou pour Rennes. Donc on s'appuie sur les matchs qu'on a vus en Gambardella. Donc on fait un peu de vidéo le matin du match. On l'a fait contre Brest, on l'a fait contre Lyon-la-Duchère, on refera contre Rennes, mais c'est juste donner 2-3 indications sur l'adversaire. L'objectif étant de ne pas y passer 3 heures, l'objectif étant d'être assez bref et assez précis sur les points forts et les points qu'on pourrait exploiter concernant l'adversaire. Voilà.
Juste un petit mot pour terminer cette première partie sur votre groupe. Au tour précédent, il y avait quelques absents,
oui.
Des blessés. Est-ce qu'au moment où on se parle, à quelques jours du match, même s'il y a peut-être des choses encore qui peuvent changer, vous savez si vous disposerez d'un groupe au complet? Est-ce qu'il y a des absents, entre guillemets, de durée? Peut-être le petit Nassim Klemkani, oui, qui avait un problème musculaire, qui ne sera peut-être pas là.
Il y a encore des incertitudes, oui, concernant Nassim, c'est très incertain. Il y a aussi Antoine Lepelletier qui était pas présent sur le tour précédent, ni Sacha Fimi, qui sont en bonne voie pour être là sur ce week-end-là. Il y a l'incertitude Brahim Traoré en fonction de l'équipe professionnelle, est-ce qu'il viendra avec nous ou pas. Il y a aussi un match qui va être honoré, donc est-ce qu'on va avoir des problèmes ou pas. Il y a des retours de sélection pour Norman Bassett. Donc voilà, il y a des incertitudes, mais en même temps pour l'adversaire c'est exactement la même chose, puisqu'ils ont aussi une multitude d'internationaux, donc forcément on ne sait jamais comment ça va se passer. Et les joueurs, le rythme est très soutenu aujourd'hui, donc on n'est pas sûr d'avoir tout le monde à 100% ce jour-là.
On précise juste concernant Brahim, qui avait disputé le 8e de finale, oui, laissé à disposition du groupe Gambardella, oui, par Stéphane Moulin et le staff professionnel. Mais Brahim, c'est un garçon qui est intégré à part entière au groupe professionnel. Et donc si les pros ils ont besoin de Brahim le samedi soir à Grenoble, oui, il jouera à Grenoble.
Avantage à l'équipe professionnelle.
Et donc ça, c'est des choses qui se décideront dans les dernières heures ou les derniers jours. Oui. Voilà. S'il peut jouer, il sera laissé à votre disposition, mais la priorité ira bien entendu au groupe professionnel.
Tout à fait.
Même à l'orée d'une demi-finale de Gambardella.
Samedi soir.
L'objectif de la formation est de former des joueurs pros, donc l'équipe professionnelle passe largement au-dessus d'une demi-finale de Gambardella.
C'est un petit bonus que vous pourriez avoir, un gros bonus, parce que Brahim Traoré, c'est forcément pas anodin.
C'est une plus-value.
C'est une plus-value. Voilà.
Eh bien voilà, c'était une première partie extrêmement intéressante de ce débrief de Radio BFM et Foot Normand consacré à la Coupe Gambardella, cette demi-finale qui, on le rappelle, aura lieu ici même dans ce stade Michel Dornano où on se trouve aujourd'hui. Coup d'envoi à 15h donc dimanche entre le stade Malherbe de Caen et le stade Rennais. Place en vente au tarif de 5€ et on l'a dit tout à l'heure, les clubs de la région ont été invités, les partenaires, les abonnés également. Bref, ce sera une belle fête indéniablement ici même à Dornano dimanche prochain. C'était la première partie du débrief, mais on va continuer à parler du stade Malherbe de Caen avec notre invité exceptionnel ce lundi, Nicolas Seub. On va parler du centre de formation, on va parler de Nicolas aussi. On sait que c'est pas la partie qui va affectionner le plus, mais il va bien falloir qu'on parle de lui aussi tout à l'heure, parce que quel parcours,
elle va durer moins longtemps
quand même que celui de notre invité aujourd'hui. Ne touche à rien, vous êtes au cœur du débrief de Radio BFM et Foot Normand, épisode 22 aujourd'hui. On se retrouve dans un instant.
Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio BFM et Foot Normand.